Exprimer notre observation de façon neutre ne veut donc pas dire que nous refoulons nos sentiments. Cela veut dire que nous ouvrons l'entretien d'une façon qui respecte la réalité et la vision que l'autre en a, qui peut être bien différente de la nôtre, et qui nous permet de communiquer à l'autre notre sentiment avec toute notre force, sans juger ni agresser.
Quand je fais l'exercice avec des enfants, la réponse sur la contrainte est quasi constante. Au fond, adultes ou enfants, nous détestons tous faire les choses par obligation. Nous avons besoin d'en comprendre le sens et d'être libres de nos actes. Le sens est ici donné par la mention des besoins. La liberté, elle, est assurée par la formulation de la demande, qui est toujours exprimée de façon négociable. Sinon, ce n'est plus une demande, mais une exigence. Et nous sortons alors de la qualité de relation que nous souhaitons atteindre. Rappelez-vous que, souvent, pour peu que nos besoins ne soient pas reconnus, nous les imposons. Va ranger ta chambre tout de suite. Ce n'est pas une demande ouverte, mais une exigence qui ne laisse pas de liberté à l'autre. L'autre va donc soit se soumettre, soit se rebeller, mais certainement pas agir dans le goût et la joie de contribuer à notre bien-être. À ce stade, je peux dire que je n'ai pas encore rencontré de personne, adulte ou enfant, qui n'ait pas fondamentalement le goût de contribuer au bien-être des autres, même si ce goût est parfois bien enfoui dans un recoin du cœur. J'observe aussi des changements radicaux dans le fonctionnement de systèmes familiaux ou conjugaux. Dès que les individus prennent soin de clarifier leurs besoins respectifs avec bienveillance vis-à-vis de l'autre et confiance en soi, en s'assurant que l'autre les a compris. Le simple fait de relever les faits tels qu'ils sont, le plus objectivement possible, nous permet souvent de recadrer les choses et de dégonfler les baudruches que sont les préjugés, les croyances, les a priori, qui ont vite tendance à prendre toute la place, à occuper tout notre espace mental et toutes nos conversations. Combien de discussions, de réunions, de repas passés à commenter des faits non vérifiés, à partir dans des conjonctures et des projections, souvent négatives d'ailleurs, sur la base de simples hypothèses. Nous ferions l'économie de bien des soucis et de bien d'énergie si nous acceptions de parler davantage de ce que nous connaissons pour l'avoir vérifié, que ce que nous craignons et que nous n'avons pas vérifié. En conclusion, sur l'importance d'observer sans juger, je vous livre trois réflexions. Distinguer la narration des faits de leur interprétation est pratique courante dans les enquêtes policières et dans les procédures judiciaires. Avant de confronter les faits aux valeurs de la société exprimées par les lois, il y a lieu, pour toutes les parties concernées, autorités de police, cours et tribunaux, agresseurs et victimes, parties demanderesses et parties défenderesses, parties tiers impliquées, etc., de s'entendre sur les faits d'abord. Même exercice à l'armée. Quand j'ai fait mon service militaire, j'ai suivi un cours de message radio qui s'appelait « Observe and Report ». Observer et rapporter. Pour être sûr de décrire les faits tels qu'ils sont, on ne s'encombre pas de sentiments. Par exemple, imaginez qu'en temps de guerre, un observateur rapporte « Nous sommes envahis de tous côtés, l'ennemi déferle sur nous avec les plus gros moyens, c'est l'invasion ». Ce ne sera pas facile de trouver la réaction appropriée. En revanche, si l'observateur indique ce qu'il observe vraiment, une colonne de 15 chars se dirige du sud vers le nord, à 10 kilomètres du front. Une troupe d'une centaine d'hommes remonte la rive gauche du fleuve. trois avions de type XY survolent la côte vers l'est. Sans doute y aura-t-il un peu plus de chance que l'attitude adoptée soit appropriée. Je ne fais certainement pas ici l'apologie de l'armée. Je relève simplement un principe de sécurité et de clarté fondamental pour l'efficacité de l'action. Établir les faits et s'entendre sur leur déroulement pour savoir de quoi nous parlons exactement avant d'interpréter ou de réagir. Par respect des mêmes valeurs de sécurité et d'efficacité, il nous sera bien utile de travailler notre façon d'observer, non pour nous couper de nos sentiments et besoins, mais pour donner à ceux-ci leur pleine portée. Deuxième point, le jugement encage l'autre. La réalité nous encage nous-mêmes. Il nous coupe de l'autre, de la réalité et de nous. En ballant son objet sous cellophane comme l'est une denrée sous vide, en faisant un petit paquet clos, isolé, prêt pour le congélateur des idées toutes faites, des croyances et des préjugés. Lorsque je juge, je ne m'interroge ni sur moi-même ni sur l'autre. Le jugement fige, congèle la réalité. Il l'enferme dans un de ses aspects et l'arrête dans son cours. Or, la vie est mouvement. La seule chose fixe sur cette planète, c'est l'homme qui l'a inventée. C'est l'homme qui a inventé l'idée fixe. Depuis le mouvement infiniment grand des planètes et du cosmos, jusqu'au mouvement infiniment petit des atomes et des électrons, tout est toujours en mouvement. Dans la nature, il n'existe rien de fixe. C'est l'homme qui a inventé les jugements définitifs. Dans la nature, il n'y a rien de définitif. Tout y est saison, passage et transformation. Même les montagnes sont en chemin. Au fond, la seule chose qui soit constante, c'est le changement. Tout le reste est provisoire, précaire, saisonnier. Et en troisième réflexion, au fond, en tant qu'être conscient, nous avons profondément besoin de nous situer par rapport aux choses et aux êtres et d'exercer notre discernement. Par « nous situer par rapport aux choses », j'entends savoir où nous en sommes, si nous apprécions ou n'apprécions pas, si ce que nous vivons ou voyons correspond à nos valeurs, à notre vision du monde, si nous voulons continuer ou changer, ce que nous pouvons faire pour changer. Nous avons profondément besoin de partager des valeurs et principalement celles du sens. Nous avons besoin que la vie ait du sens. Or, pour satisfaire ces deux besoins, nous avons pris la vieille et fâcheuse habitude de juger mentalement plutôt que d'accueillir les choses avec notre cœur. Mon souhait, dans ce livre audio, est d'indiquer comment nous pouvons nous situer sans juger, discerner les enjeux, les valeurs et les priorités sans critiquer, sans agresser, sans imposer, trouver et partager du sens, sans contraindre ni rejeter. La première étape de ce processus consistera donc souvent à vérifier ce qui se passe. Quelle est la réalité? Quels sont les faits?